Bonjour Regina et bienvenue à un autre épisode de Terra Nostrum avec votre animateur, professeur Mike. Aujourd'hui, nous allons laisser aller notre imagination en suivant les étapes historiques de ce qui aurait bien pu se produire si un événement marquant de l'histoire du Canada s'était déroulé autrement. Je parle du 13 septembre 1759 et de la bataille des plaines d'Abraham. Petit récapitulatif de cette fameuse bataille. Les plaines d'Abraham ont été le point culminant de ce qui a été appelé à l'époque la guerre des Français et des Indiens qui impliquait les Anglais, Américains et Iroquois d'un côté et les Français et les Hurons, entre autres, de l'autre. L'enjeu principal de la guerre était le contrôle de la vallée de l'Ohio et, si possible, du Mississippi. Pourquoi principalement ces zones-là? Parce que les Américains étaient de plus en plus à l'étroit dans leurs 13 colonies originales et que les voies navigables de ce réseau de rivières en faisaient des voies de commerce et de transport enviables pour développer toute cette section de l'Amérique du Nord. Avec ses 2 millions d'habitants, contre environ 15 000 chez les Français, les Américains ne possédaient à l'époque que 1/10 du continent, alors que la Nouvelle-France allait de l'embouchure du Saint-Laurent jusqu'à Winnipeg et tout le long des terres autour des Grands Lacs jusqu'à la Nouvelle-Orléans. C'était plus de la moitié de toute l'Amérique du Nord. Les terres de l'Ohio étaient à peu près vierges et enviables pour l'agriculture. Les Américains manquaient de terres pour leurs enfants parce que presque toute la Nouvelle-Angleterre utilisable était déjà utilisée. Alors, on voulait de l'expansion, mais les Français bloquaient le chemin. Avec en priorité le commerce des fourrures, les Français avaient tout avantage à conserver le plus de forêts et de zones sauvages possibles. De plus, comme les Amérindiens étaient bien souvent leurs associés dans l'affaire, ils avaient conclu plusieurs marchés avec eux et respectaient leurs terres parce que ça faisait leur affaire. Alors, normal que les Amérindiens penchaient plutôt du bord de la Nouvelle-France. De plus, pour protéger leurs droits acquis, les Français avaient construit plusieurs forts tout le long du Saint-Laurent et du Mississippi, ce qui était un obstacle de taille pour n'importe qui voulait leur faire du tort. Et les forces combinées des Anglais et des Américains vont se casser les dents plusieurs fois à tenter de percer ces défenses. Mais dans tout ça, le nœud du problème, c'était Québec. Québec est la porte et le verrou de l'Amérique. Avec sa géographie particulière, son élévation du Cap Diamant et le goulot étroit du fleuve à cet endroit, tout ça fait en sorte que c'est un endroit stratégique militaire 5 étoiles. Et avec la forteresse bien bâtie au-dessus, on disait de la ville qu'elle était imprenable. Et en fait, elle l'était, et elle l'est toujours, à condition qu'on ne fasse pas de gaffes stupides comme ce qui est arrivé en ce jour de septembre fatidique. Pour débuter notre volet musical, je vous propose une pièce du groupe Phoenix qui s'intitule « Delirium ». C'est une pièce très enjouée au rythme rapide. Voici à la voix Julianne Dalcourt et Delirium. C'était Delirium et Phoenix. Retournons maintenant à notre émission pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé au juste lors de la bataille des plaines d'Abraham. La stratégie est que toute la petite aide que reçoivent les Français, et je dis petite aide, parce que le roi Louis XV, à l'époque, avait peu d'intérêt pour la Nouvelle-France, qui n'était pas aussi payante que les îles des Caraïbes. Donc, il n'y envoyait pas grand-chose. Et ce n'est qu'à cause de l'organisation militaire bien organisée que les soldats français pouvaient tenir le coup contre la formidable machine de guerre anglaise. Mais pour que tout cela fonctionne, il fallait que cette aide se rende au fort situé tout le long du corridor du Saint-Laurent, Grand Lac et Mississippi. Or, tout ça devait passer d'abord et avant tout par Québec. Si on coupe Québec, on ferme le robinet. Et c'est exactement ce que les Anglais voulaient faire. Mais comme j'ai dit, Québec est virtuellement imprenable. Alors, comment on prend une place imprenable? Réponse, en y mettant un mauvais général. Et qui plus est, deux mauvais généraux. Lorsque les militaires étudient cette bataille, on l'associe à la guerre où le général qui a fait le moins d'erreurs a gagné. Et c'est Wolfe qui a la palme de ce palmarès. Alors, comment les Anglais ont réussi à prendre Québec et quelles ont été ces fameuses gaffes que l'on parle tant? Du côté anglais, le premier problème, c'est que c'est impossible d'avancer ses bateaux au-delà de l'île d'Orléans sans recevoir une pluie d'obus des canons de la forteresse. C'est comme ça que Frontenac avait vaincu Phillips en 1690. Et, fort de cette expérience, Montcalm avait stationné un fort contingent de troupes à Beauport pour empêcher Wolfe de s'y établir et le contraindre à rester sur la rive sud. Deuxième problème majeur, comment réussir à grimper en haut du Cap Diamant sans se faire massacrer en tentant l'escalade qui est extrêmement difficile? Le seul chemin connu est une petite rue étroite qui grimpe du port de Québec, place Champlain aujourd'hui, jusqu'au château Frontenac. Cette rue existe toujours. Elle s'appelle la côte de la montagne. Et du temps de la bataille, elle était étroitement surveillée. Ce n'était pas une option. Alors vint un traître qui va donner une option valide à Wolfe. Il existe un autre chemin, plus à l'ouest, qui est utilisable pour monter en haut de la falaise et elle aboutit aux plaines d'Abraham. Cette route existe toujours aujourd'hui. C'est la côte Gilmore et c'est, encore aujourd'hui, le seul chemin praticable avant les deux ponts modernes de Québec pour monter en haut du cap. Toutefois, pour s'y rendre, Wolfe doit le faire en silence et sans être vu. Alors, il va opter pour bouger ses bateaux la nuit, grimper ses hommes sur le chemin au lever du soleil et être fin prêt sur les plaines pour la matinée. Et ici arrête le plan qui a du sens. Après, c'est une série de gaffes des deux bords. Avant de connaître ces fameuses gaffes, prenons un petit instant musical avec la star internationale de l'heure, j'ai nommé Taylor Swift, avec sa chanson « Shake It Off ». Voici Taylor Swift. At least Petit clin d'œil à tous les Swifties qui nous écoutent. Taylor Swift, Shake It Off. Bien, maintenant, retournons pour aller voir c'était quoi les fameuses gaffes de Montcalm et de Wolf. De retour sur les plaines d'Abraham. Côté français maintenant. Le général, c'est Montcalm. Montcalm est un militaire du style « by the book », classique et bien européen. Il déteste le terrain accidenté de l'Amérique car il ne lui permet pas de faire la guerre à l'européenne. Trop de forêts, entre autres, et pas assez de terrain plat. Par conséquent, dans ses batailles antérieures, telles que celles autour du lac Champlain, il a souvent dû improviser. Et il a été chanceux. Alors, il croit en sa chance, mais cette fois, elle va tourner de bord. L'idée d'envoyer des troupes à Beauport sur la rive nord avait du sens, car elle bloquait cet accès et obligeait Wolfe à rester au sud, donc du mauvais côté du fleuve. Mais en contrepartie, ceci faisait en sorte que la citadelle était dégarnie, donc pas beaucoup de soldats. Il comptait sur ses canons, mais pas sur son infanterie. Autre détail important, pour empêcher les Anglais de descendre quelques kilomètres à l'intérieur des terres pour débarquer loin derrière Cap-Rouge et s'avancer ensuite sur le Cap-Diamant et Québec, il avait envoyé le général de la cavalerie Bougainville patrouiller le secteur ouest. Encore là, c'était une précaution raisonnable. Mais jamais il ne s'attendait à ce que les Anglais trouvent la côte Gilmore et se présentent soudainement aux portes de la citadelle ce matin-là. Et les gaffes commencent. Surpris, Montcalm dépêche un courrier aux troupes de Beauport et leur ordonne de venir dardard à la citadelle. Le hic, c'est qu'on parle d'une marche forcée d'au moins 7 kilomètres et surtout d'une méchante côte à monter pour se rendre au sommet du Cap Diamant où se trouve la citadelle. Je l'ai montée moi-même, cette côte-là, et croyez-moi quand je vous dis qu'elle est tough. Bref, quand les soldats arrivent, ils sont complètement épuisés. Montcalm va aussi envoyer un courrier à Bougainville qui surveille avec sa cavalerie la section ouest de Québec. Mais ce dernier doit prendre un détour pour éviter les Anglais. Ce courrier va arriver et Bougainville mettra ses troupes en direction de Québec. Mais Montcalm y voit aussi une occasion qui se présente tout à coup. Il y a devant lui le terrain idéal pour une belle petite bataille à l'européenne. Un face-à-face avec l'ennemi, une plaine, pas d'arbres, pas de collines. Alors, au lieu de laisser ses hommes se reposer, et plus encore, le temps à Bougainville d'arriver, en restant sagement assis dans la citadelle, que les Anglais ne pourront pas prendre de toute façon, sans un siège solide. Il choisit à la place de lancer tout de suite ses hommes épuisés dans la mêlée, laissant derrière eux la formidable défense de la citadelle. Wolfe, de son côté, en grimpant la côte pour se trouver dans les plaines, se retrouve complètement à découvert, sans aucune protection supplémentaire, ni réserve, ni point de défense solide. Autour de ces hommes, il n'y a rien, rien que de l'herbe. Et il l'ignore avec une cavalerie ennemie qui s'en vient par en arrière et qui va le prendre en souricière une fois qu'elle va arriver. Bref, si Montcalm avait attendu quelques heures en laissant les Anglais poireter en avant des murs de la forteresse, quand Bougainville serait arrivé, il aurait pu faire une sortie avec des soldats reposés, bien en forme et prêts à en découdre. Les forces anglaises auraient été prises sur deux fronts, sans aucune possibilité de retraite nulle part. Ça aurait été un massacre, avec peu de pertes françaises. Mais comme Montcalm a voulu jouer à la vedette, tout ça a tombé à l'eau et c'est avec des soldats amochés et une bonne partie de son infanterie décimée qu'il a dû revenir dans la citadelle. Et lorsque Bougainville est arrivé, les Anglais ont pu lui faire face car il n'y avait pas d'ennemis derrière eux, et ce, malgré la mort de Wolfe. Le reste n'était qu'une question de temps. Les renforts anglais ont pu venir et finalement l'armée française, qui a aussi perdu Montcalm, décédé le lendemain, a fini par capituler. De retour en musique, cette fois-ci je vous propose une pièce du groupe québécois Harmonium sur leur deuxième album qui représentait l'été. Voici la pièce qui s'intitule « Dixie » de Serge Fiori. Voici « Harmonium ».
Dis-moi c'est quoi ta tonne qui me revient dans les oreilles tout le temps. C'est moi, j'ai vu ma bête comme avant. Comme avant, pour remplir mes oreilles. Dis-moi c'est quoi ta tonne qui revient comme le soleil tout le temps. Quand tu viens, si jamais pour longtemps, tu entends. Pour longtemps, pour chauffer mes oreilles.
C'est Serge Fiori et Harmonium de leur deuxième album « Si on avait besoin d'une cinquième saison ». De retour à notre épisode pour vérifier et comprendre qu'est-ce qui aurait pu se passer si les choses auraient arrivé autrement à cette bataille des plaines d'Abraham. Le résultat de cette bataille est ce que l'on a aujourd'hui. Bien, maintenant jouons les devins et tentons de voir ce qui aurait pu arriver à l'Amérique si Montcalm avait pris la bonne décision de rester sagement dans la citadelle à attendre Bougainville. Bon, toutefois, il y a fort à parier que malgré une victoire française aux plaines, ça n'aurait été que partie remise et que la victoire anglaise serait arrivée un peu plus tard avec d'autres généraux. Comme j'ai dit, le roi Louis XV n'aurait pas envoyé plus de ressources à la Nouvelle-France, alors que les Anglais avaient tout à gagner et y auraient mis le paquet une nouvelle fois. Mais Québec reste une place toujours pratiquement impossible à prendre. Même aujourd'hui, avec de l'équipement militaire moderne, ce serait une tâche colossale pour n'importe quelle armée d'essayer de prendre Québec. Et c'est impossible de prendre le centre de l'Amérique sans passer par Québec. Donc, les Anglais n'auraient pas eu le choix de s'essayer à nouveau. Comment ce rapport de force aurait-il eu de l'influence sur les traités de paix à la fin de la guerre de 7 ans? C'est difficile à dire, mais comme Louis XV n'a pas perdu la Nouvelle-France, ou n'aurait pas perdu la Nouvelle-France, même s'il ne s'y intéressait pas plus qu'il ne faut, il n'ira pas la mettre dans l'équation des traités. Il va sûrement la garder, parce qu'il n'a pas besoin de la perdre. Mais il y a un hic. Et le hic, c'est que l'armée anglaise a un temps limité pour réussir leur coup. Et s'ils passent au-delà de cette limite, alors soudainement, tout va changer. Et cette limite, c'est l'année 1776. Si la Nouvelle-France tient le coup pendant 17 ans, le visage de l'Amérique va complètement changer, et ce, à cause de deux événements majeurs que les acteurs de l'époque ignoraient qu'ils allaient arriver. Ces événements sont la Révolution américaine et la Révolution française. Gagnant ou perdant de la guerre des Français et des Indiens, les Américains allaient quand même se retrouver avec les mêmes circonstances qui vont entraîner la Révolution américaine. Et qui plus est, sans avantage, parce qu'ils ont perdu. Le gouvernement anglais de Westminster va imposer les fameuses taxes qui vont enrager les Américains parce qu'ils voulaient les faire payer pour les dépenses engagées dans la guerre. Ça n'aurait eu aucune influence s'ils avaient perdu. Le gouvernement aurait quand même voulu faire payer les Américains. Et ceux-ci auraient été encore plus en colère s'ils avaient perdu. Parce qu'on leur demande de payer, mais sans avoir la compensation des fameuses terres de l'Ohio qu'ils voulaient. On aurait certainement eu un plus grand rapport de force anti-anglais parmi eux. Donc, encore plus de volontaires et de sympathisants. Mieux encore, Benjamin Franklin va quand même réussir à convaincre le roi Louis XVI de prêter main-forte à l'Amérique. Et cette fois, Louis a un atout dans son sac. S'il tient encore la Nouvelle-France, l'aide est à la portée de la main et va lui coûter moins cher que ce qui est arrivé dans l'histoire. C'est ironique que, suite à cette nouvelle alliance, les soldats français qui ont combattu les Américains se retrouvent à s'allier et à combattre avec eux contre les forces royales britanniques. Mais pour les jeunes États-Unis, cette alliance, c'est un cadeau en or. Les troupes françaises stationnées en Nouvelle-France sont aguerries. Ce sont des vétérans professionnels et ils sont habitués au terrain et aux conditions de combat dans l'Amérique. C'est cet avantage qui va permettre aux Américains de gagner leur révolution. Et ils viennent d'avoir d'excellents alliés qui ont ce même avantage. La plupart des troupes américaines coloniales avaient peu ou pas d'expérience. Avec un contingent français qui aurait aisément pu comprendre de 2 à 3 bataillons, ils viennent d'avoir une force de frappe solide qui pouvait rivaliser efficacement contre les Britanniques. Militairement parlant, Washington était excellent et il les aurait utilisés à bon escient pour sûr. Et même si les forces britanniques auraient été tentées d'envahir ce nouvel allié, ils auraient encore eu à faire face à Québec. La France aurait envoyé les autres forces promises et les Américains auraient gagné leur révolution et leur indépendance. L'amitié forgée de cette alliance continue encore aujourd'hui entre la France et les États-Unis. Ça aurait été toujours le cas avec une nouvelle France, et ça va créer un dilemme aux États-Unis. Oui, parce que ces derniers sont toujours intéressés par la vallée de l'Ohio et du Mississippi, mais maintenant, même indépendants, ils ne sont pas en mesure, moralement, de reprendre la guerre avec ceux qui viennent tout juste de les aider. Mais il y a un autre événement qui s'en vient et qui va ajouter du piquant à l'équation. Bien, bien, bien. Alors, question de vous faire languir un petit peu sur ce nouvel événement, je vous propose d'abord une pièce du groupe Phoenix qui s'intitule « Dance with me ». Une jolie petite balade, question de relaxer un peu entre deux sections de l'épisode. Voici Phoenix, Dance with me. Phoenix, duo de l'Outaouais, avec sa petite ballade Dance With Me. Retournons maintenant à notre émission pour voir ce qui aurait bien pu se passer une fois que les États-Unis deviennent indépendants et que ce nouvel événement arrive et qui va complètement changer les dés. Et cet événement, c'est la Révolution française. Même si officiellement, la Révolution française débute le 14 juillet 1789 avec la prise de la Bastille, elle va s'étendre sur plusieurs autres années avec diverses péripéties. Mais ce qui est important pour la Nouvelle-France, c'est qu'elle va être mise de côté pour plusieurs années. Alors, prise avec les problèmes sur le sol français, Paris n'enverra aucun soldat en Amérique, ne pourra les rapatrier, mais aussi, et c'est important, elle ne va pas investir dedans. Donc, pratiquement parlant, Paris va perdre le contrôle. Et la Nouvelle-France va se retrouver devant un choix. Québec va avoir besoin d'argent, d'assurer un financement adéquat de la colonie. Elle possède maintenant un atout. Le système mercantile qui obligeait Québec à faire affaire presque exclusivement avec la métropole française va tomber. Donc, on peut maintenant faire affaire avec n'importe qui. Mais qu'a-t-elle à offrir? Deux choses, des fourrures et des poissons. Le premier client intéressant sont les États-Unis. Le second, l'Europe du Nord, où les chapeaux à fourrure sont aussi à la mode. Toutefois, elle a un concurrent, les Anglais de la baie du Son. Pour les poissons, les États-Unis seront aussi preneurs, mais également l'ensemble des Caraïbes et une partie de l'Europe. Mais ça ne sera jamais suffisant. Les lettres et demandes d'aide à Paris vont rester lettres mortes. La Nouvelle-France va devoir maintenant décider si elle fait comme d'autres colonies qui sont en train de le faire, telle Haïti, de prendre son indépendance. Si elle le fait, la France n'aura presque rien à l'opposer, du moins pour le moment. Ou, si elle reste une colonie, à un moment ou l'autre, Paris va envoyer des émissaires pour prendre des taxes, chose que les habitants ne seront pas en mesure de payer à cause justement du manque d'investissement de la part de l'Europe. Il est impossible de savoir quelle partie les élites décideront. Mais les chances seraient plus à pencher vers l'indépendance, surtout que les Américains y seront sans doute favorables parce que ça va être plus facile de négocier ce qu'ils vont rapidement s'apercevoir qu'ils peuvent faire. Ils peuvent négocier des terres. Comme la Nouvelle-France, maintenant le Canada, le nom aurait resté, a besoin d'argent, Washington va leur proposer d'acheter des terres, comme la vallée de l'Ohio, par exemple, et peut-être une partie du Mississippi. Le nouveau Canada aura une pression énorme pour accepter, ce qu'ils vont sans doute faire. Ce ne sera certainement pas les frontières actuelles, mais ça va y ressembler. Autre point important, le Canada va tenter d'y insérer une alliance protectrice entre les deux pays, ce que l'Amérique va certainement accepter. C'est tout à leur avantage. Ceci est très important, car si la France décide de revenir dans le giron du Canada et tenter d'imposer à nouveau son hégémonie, elle va devoir faire face aux États-Unis, et elle n'osera pas. Enfin, peu importe le scénario, Napoléon va encore une fois accepter l'offre de Jefferson d'acheter la Louisiane parce qu'il n'en a rien à foutre et qu'il a besoin d'argent pour ses conquêtes européennes. Toutefois, Les frontières accessibles s'arrêteront sûrement autour de ce qui est Saint-Louis aujourd'hui et englobera une petite partie du sud des prairies canadiennes. Et évidemment, la guerre de 1812 n'aura pas de bataille au Canada comme ce fut le cas. Elle restera entièrement aux États-Unis. La Floride sera achetée. Le président Jackson va poursuivre sa guerre avec l'Espagne et le Mexique, s'accaparant les États du Sud, Ouest et de la Californie. Reste alors en suspens les terres de Rupert et la colonie de la Colombie-Britannique, située à Vancouver et Victoria. Retournons à nouveau en musique, cette fois avec le groupe britannique Coldplay et sa chanson dans Sing to a Sky Full of Stars. Voici Coldplay.
Cause in the sky,
C'était Coldplay et Chris Martin qui nous interprétaient l'un de leurs succès, The Sky Full of Stars. Retournons maintenant à notre émission pour connaître la suite de ce qui aurait bien pu se passer en Amérique si les Français avaient gagné la bataille des plaines d'Abraham. Il est presque assuré que la Colombie-Britannique deviendra un département outre-mer britannique, tout comme Terre-Neuve. Vancouver est trop monarchique pour s'associer avec les Américains et elle ne s'intégrera jamais à un territoire français. Reste la question des terres. J'ose croire qu'elles resteront surtout le long de la côte de Victoria à Prince Rupert, incluant l'île de Vancouver et les îles Charlotte. Possiblement une partie de la vallée du Fraser, mais sans plus. Ceci aura peu de conséquences sur la composition actuelle de l'Amérique du Nord, sauf l'Alaska. Il y a fort à parier que l'achat par les États-Unis va être considérablement plus gros que ce qu'est l'Alaska aujourd'hui, surtout son bras. Alors, pour la terre de Rupert, ça, c'est une bonne question. Mais d'une façon ou d'une autre, elle va être partagée entre les Américains et le Canada. Pourquoi? Pour diverses raisons. Mais l'une des premières, parce qu'elle manque cruellement de colons. Et c'est surtout pour le commerce de la fourrure qui, lui, va décliner et qui va être accaparé par les Canadiens. En fait, même sous le contrôle du Canada d'aujourd'hui, la compagnie de la baie du Thon qui exploitait toutes les terres de la terre de Rupert avait déjà un concurrent basé à Montréal, la compagnie du Nord-Ouest. Cette compagnie va continuer de faire affaire avec les Amérindiens du territoire. Et comme il est composé en bonne partie par des Métis français, ils vont pencher sur le bord du Canada. De plus, à cause de son mode d'affaires, la compagnie de la baie du Thon va avoir de la difficulté à maintenir son monopole, car elle fonctionne par comptoir fixe et non par des aventuriers coureurs des bois mobiles comme son concurrent. Les États-Unis vont avoir leur fameuse route de l'Ouest avec le début de la ruée vers l'or californien. Et on doit s'en douter qu'une certaine partie des pionniers vont s'installer dans le sud de l'Alberta et de la Saskatchewan. Mais s'il y a, disons, un peu de modification de la frontière, ça ne sera pas beaucoup. Pourquoi? Parce que peu d'Américains vont s'y installer. D'ailleurs, toute la zone comprise entre le Minnesota et l'État de Washington est, même aujourd'hui, à peu près vide. Il y a moins de 1% des Américains modernes qui vivent là. Bref, voyons maintenant le portrait de l'Amérique du Nord. Bien, le continent est maintenant divisé en 4 pays, peut-être 5. Le Mexique au sud, les États-Unis au centre, le Canada au nord et les provinces de l'Atlantique réunies au nord-est. Oui! Car au moment de la guerre des plaines d'Abraham, cette partie de l'Amérique a été donnée aux Britanniques. Et c'est là, et non plus en Ontario, que les loyalistes américains vont déménager après la victoire de la Révolution. Ils seront assez nombreux pour en faire un pays. Terre-Neuve restera un territoire outre-mer, à moins qu'ils ne choisissent de s'intégrer avec les provinces de l'Atlantique. Et comme j'ai dit, c'est difficile de savoir si la Colombie-Britannique pourrait éventuellement devenir un pays en soi ou rester une terre de la couronne. Le Canada aura plus de terres au sud, probablement jusqu'au lac Champlain dans l'État de New York, possiblement quelques terres du Maine. Il engloberait assurément une plus grande partie des Grands Lacs avec une courbe qui irait jusqu'à Saint-Louis, correspondant environ à la ligne de défense française durant la guerre des Français et des Indiens. Des villes comme Détroit, Saint-Louis, Madison, possiblement Minneapolis et Duluth, peut-être même Buffalo et Cleveland, seraient canadiennes. Calgary et Regina pourraient bien être américaines, mais pas Edmonton ni Saskatoon. Ça va dépendre du chemin de fer. Les Canadiens le construiront, mais peut-être pas aussi vite parce qu'ils n'ont pas besoin tout de suite de se relier avec l'océan Pacifique et s'ils le font, ce sera plus au nord. Enfin, politiquement parlant, le Canada serait un pays à démocratie libérale comme il l'est, mais pas avec un parlement de style britannique. Non, ils vont copier le concept de la Constitution américaine avec un président et deux chambres. Comme la colonie était raisonnablement bien organisée au départ, rien n'indique qu'elle serait tombée dans l'anarchie. On peut se douter que ce Canada-là serait lui aussi économiquement fort. Les provinces existeraient aussi et devraient être assez grandes telles qu'on le voit aujourd'hui. D'ailleurs, notez que même en Russie, tout ce qui est au nord est très grand. Ça va être semblable ici. Il est peu probable que le Canada participe à la Première Guerre mondiale, du moins pas avant que les Américains ne s'impliquent. Et possiblement pareil dans le cas de la Seconde. Le Canada garderait sa réputation de pays tranquille, non colonialiste où il fait bon vivre. Enfin, dernier point évident, on y parlerait le français et la religion dominante serait le catholicisme romain. Évidemment, c'est toujours facile de spéculer sur ce qui aurait pu arriver ou pas. Mais il s'agit ici d'une analyse raisonnable sur des possibilités bien réelles de ce qui aurait pu se produire si la Nouvelle-France aurait tenu le coup face aux Anglais jusqu'en 1776. Mais ce qui est arrivé, et on ne le changera pas. Alors, il faut bien vivre avec et continuer de prospérer avec les avantages que l'on a. C'était Terra Nostrum avec votre animateur, professeur Mike. À bientôt pour le prochain épisode.